Vous écoutez France Culture.
Les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc Moinchet.
Et vous nous parlez de l'Israël et de la Syrie avec votre invité Alain Diekhoff.
Voilà, on va parler en fait de la question du Golan après la répression meurtrière et les événements sanglants de dimanche dernier. Alain Diekhoff, bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là.
Voilà, bonjour, vous êtes, merci d'être en direct. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'IEP de Paris. On vous doit chez Armand Collin qui vient de sortir un ouvrage intitulé « Le conflit israélo-arabe, 25 questions décisives » avec des sortes de synthèses précieuses et également des problématiques. Donc 25 questions décisives, le conflit israélo-arabe. On va rappeler à propos du Golan et avant d'évoquer évidemment l'actualité que c'est une prise de guerre effectuée par Israël sur la Syrie lors de la guerre des six jours, en même temps que les trois territoires palestiniens, Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. À l'époque, en 67, il s'agissait de hauteurs stratégiques. Une partie du Golan sera restituée à Damas en 74. Le Golan a été colonisé par Israël, puis annexé en 1981. Et la Syrie a toujours fait de la restitution du Golan une condition sine qua non de tout accord de paix éventuel avec Israël. Les événements d'il y a quelques jours, comment les lisez-vous, comment les interprétez-vous, Alain Diekhoff ? Et on rappelle donc qu'il y a eu franchissement de la ligne de séparation par des Syriens, des Palestiniens et une répression. Et en même temps, les Israéliens accusent les Syriens d'avoir poussé donc sur des champs minés un certain nombre de Palestiniens.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont déjà des événements inédits parce que, comme vous l'avez dit très justement, cette frontière de facto, hein, qui n'est pas une frontière internationale, puisque l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue et a été calme. C'est une des frontières les plus calmes d'Israël depuis 1967. C'est en fait la première fois qu'un événement de ce type se passe, et de ce point de vue, il est en effet assez difficile de ne pas mettre dans le contexte d'une Syrie en ébullition où depuis maintenant six semaines se passent les événements que nous connaissons et qu'on puisse l'interpréter de deux façons. Soit c'est une manœuvre de diversion, le régime syrien finalement laissant les Palestiniens, ou en tout cas certains d'entre eux, ou les encourageant même à tenter ce franchissement, ou alors en fait le régime syrien est dans un certain état de au moins relatif de décomposition et certains Palestiniens profitent pour tenter de franchir cette frontière qui, il faut le dire, est dans une zone d'interposition, c'est-à-dire qu'il y a des troupes de l'ONU qui se trouvent avant la frontière stricto sensu.
Alors la chef de l'ONU pour les droits de l'homme vient de déclarer donc qu'elle était profondément troublée par les récents tirs israéliens dans le Golan avec un certain nombre de morts, et en même temps elle s'est déclarée préoccupée par l'action des, très exactement, par des informations selon lesquelles les civils étaient encouragés par les autorités syriennes à manifester dans des zones minées. Est-ce qu'on peut dire qu'en première approche, hein, bien sûr, on n'est pas sur les lieux, les torts semblent ou peuvent être partagés ?
Partagé dans une certaine mesure, mais il est évident que au premier chef, c'est les Syriens qui doivent empêcher en fait les populations de s'approcher de la frontière. Hein. Ils ont une responsabilité. D'ailleurs, la responsable de l'ONU que vous citez dit bien que dans cette zone d'interposition que j'ai évoquée, ce sont les autorités syriennes qui ont la responsabilité première. Donc la première responsabilité leur appartient. Ensuite, évidemment, on peut aussi dire que les Israéliens pourraient utiliser en effet des méthodes moins agressives pour arrêter les personnes qui tentent de pénétrer sur le territoire. En même temps, je dirais, les avertissements étaient suffisamment clairs et nombreux, et les Palestiniens évidemment savaient quelque part à quoi s'attendre. D'ailleurs, je souligne que hier, dans un camp de réfugiés Yarmouk, qui est un camp à la périphérie de Damas, il y a eu des protestations.
Et même, un conflit intra-palestinien.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des protestations à l'intérieur de ce camp contre des responsables politiques palestiniens qu'ils accusent en fait de les avoir envoyés à la mort, quoi. Donc ça montre bien qu'il y a eu à l'évidence une manœuvre politique. Hein. On peut d'ailleurs souligner par comparaison que sur la frontière libanaise, en tous les cas, le 6 et le 7 juin, il ne s'est rien passé parce que là, pour le coup, l'armée libanaise avait décrété le Liban Sud, enfin, en tous les cas, une bande du Liban Sud, zone militaire fermée, et donc empêcher les gens d'arriver pour éviter ce qui s'était passé à la mi-mai, lorsqu'il y avait déjà eu des opérations, disons, de ce type-là. Mais en même temps, il faut voir aussi que, bien évidemment, par ce biais, les Syriens, comme éventuellement le Hezbollah au Liban, ce qui avait été le cas à la mi-mai, ont un moyen un petit peu de faire pression sur Israël, de les mettre quelque part en mauvaise posture. C'est évident qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue là.
Et usage aussi, on a dit disproportionné de la force, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la France qui a dit ça, à propos évidemment d'Israël, les Palais, les Syriens, etc., sont également donc coupables. Sur le plan géopolitique, si on prend un petit peu de recul, c'est un dossier particulièrement complexe et verrouillé finalement par Israël, par l'annexion de 81. Et si un jour il y avait un accord de paix avec la Syrie, il faudra désannexer le Golan.
Ah oui. Ça, en soi, ça n'est pas un problème d'un point de vue strictement juridique. Mais c'est vrai que le Golan est dans une situation, par exemple, si on la compare à la bande de Gaza, tout à fait différent. Il a une valeur stratégique pour Israël, c'est assez évident. La raison, elle est très simple, c'est que ce sont des hauteurs qui sont, pour les plus hautes, à peu près à 1100 mètres et qui dominent très largement le nord d'Israël. Donc ça c'est la première raison. C'est aussi une réserve, hydraulique. Hein. Il y a beaucoup de sources qui se trouvent là. Donc là aussi c'est un enjeu. Et troisième avantage du coup pour les Israéliens aussi, c'est que c'est depuis 1967 un territoire très peu peuplé. Il y a à peu près 10 000 druzes qui sont sur le plateau du Golan, qui sont restés sur le plateau du Golan après 1967. Mais parallèlement, il y a à peu près 12 000 colons israéliens qui s'y sont installés. Donc le rapport de démographique est très clairement favorable à Israël. Donc il y a tout un tas de raisons qui font qu'en effet, les Israéliens aient très peu de raisons de bouger et encore moins de raisons de bouger tant que le régime bassiste était au pouvoir à Damas.
Merci en tout cas, Lindikoff, le conflit israélo-arabe, Armand Collin qui vient de paraître, 25 questions décisives. Et je rappelle franceculture.com pour écouter l'émission durant 30 jours, la télécharger le jour même. Demain, nous parlons de l'Organisation des États américains.